Bonjour et bienvenue sur Parentalité et Adolescence, le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, alors soyez joie, il y a des solutions. Avant de commencer, n'hésitez pas à suivre le podcast sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook en tapant Parentalité et Adolescence, car ça me permet d'échanger avec vous. Vous pouvez également vous inscrire à la newsletter sur le site parentalitéadolescence.com.
Nous sommes le 8 mars, la journée internationale des droits des femmes, donc pour l'occasion, j'ai eu envie de vous partager l'enregistrement de l'événement Femmes au foyer, mères au travail du 25 novembre 2023, auquel j'ai participé dans le cadre de la quinzaine de l'égalité et de la diversité de la ville de Bordeaux. Clémentine Aubry, qui est à l'initiative de ce projet, a rencontré des femmes volontaires pour échanger sur les questions des injonctions faites aux femmes sur la maternité et le monde du travail. Après plusieurs rencontres, des volontaires ont proposé une lecture de textes, retranscription des échanges, mais aussi des textes écrits par elles-mêmes. Vous allez donc découvrir dans cet épisode Clémentine, Karine, Lara et Véronique. J'ai adoré cette première représentation, les échanges, les réflexions, alors j'espère que cet épisode vous plaira.
Donc bienvenue à cet événement qui a lieu dans le cadre de la quinzaine de l'égalité et de la diversité, qui porte donc sur la thématique de la dichotomie entre le fait d'être mère et le monde du travail. Moi, je suis artiste, je travaille sur les injonctions faites aux femmes. Et donc, ce projet, je l'ai initié dans l'optique de créer un spectacle, un geste artistique sur la thématique. Mais avant, j'avais besoin et envie de rencontrer des femmes, d'échanger avec elles sur ces questions, d'en apprendre plus sur leur expérience et leur parcours pour pouvoir nourrir mon travail et à terme, pouvoir, moi, créer une œuvre. Et au cours de ces rencontres, j'ai trouvé ça chouette de laisser aussi la parole à ces femmes. Donc, c'est le cas de cet événement aujourd'hui. Donc, on a trois volontaires qui ont bien voulu lire des extraits de textes, des choses qu'elles ont écrites, des choses que d'autres volontaires ont écrites, et des choses que moi aussi j'ai écrites en rencontrant des femmes. Alors, toutes les femmes qui ont participé au projet ne sont pas là aujourd'hui, pour diverses raisons, professionnelles et parentales. Mais certaines ont quand même tenu à participer en envoyant leurs textes. Et puis ce n'est que le début du projet. Le projet va s'étendre sur un an. Donc moi, je vais continuer à rencontrer des personnes. On va créer des cercles aussi de femmes pour échanger, faire du partage d'expériences et puis avancer petit à petit. Et je voulais remercier aussi Sarah du podcast Parentalité Adolescente, qui a été vraiment un pilier pour mener cet événement et pour la suite des aventures, je l'espère aussi. Et puis on va laisser la parole donc à Karine, Lara et Véronique qui ont eu le courage de se prêter au jeu, de lire leur texte aujourd'hui. Merci.
Alors c'est parti. Ça y est, on y est. Sur la route pour aller chez la gynécologue. Mon cœur bat fort. On se lance, alors c'est parti. Allez, oui, c'est le début, je suis prête, on est prêt. Je suis prête, oui. Ça veut dire quoi finalement? C'est pas grand-chose et puis tout le monde le fait. Depuis la nuit des temps, tout le monde a des enfants. Voilà, c'est pas si exceptionnel. Pourquoi ça me paraît exceptionnel avant même de commencer? Il faudra juste s'organiser. Si je fais bien les calculs, ça va. J'aurai le temps de prévenir mes collègues et ça se passera bien. Je ne mettrai pas la boîte en péril. Ils vont s'en sortir. Et puis, je ne prendrai pas un congé maternité trop long. On le fera garder. À partir de quand on doit se renseigner sur la crèche?
Bon, il y en a plein des femmes qui reprennent le boulot après être maman et qui réussissent leur carrière. Je peux le faire aussi? On va le faire. De toute façon, pas le choix. C'est moi qui dois le porter. C'est simple. Je me lève suffisamment tôt pour promener le chien, allaiter ou donner biberon. Je prépare un super petit déjeuner fait maison. On mange tous ensemble. Je les pose à la crèche, à l'école et hop, 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 au boulot. En pleine forme. Je me couche tôt, la veille, et puis ça se passera bien. Je trouverai bien le temps de continuer de faire du sport, il faudra bien que j'en refasse, parce que prendre du poids pendant la grossesse, si je veux retrouver ma silhouette, et peut-être même m'affiner, il va falloir trouver du temps pour le sport.
Mais j'en vois plein, moi, des femmes super fines qui ont 3 enfants, ou 4, ou plus. Elles doivent bien trouver le temps de garder leur ligne, elles. Si elles, elles le font, pourquoi pas moi? Est-ce qu'on a le droit de mettre les enfants chez la nounou pour aller faire du sport? Est-ce que ça se fait, ou c'est que pour le travail? Non, mais on peut faire garder les enfants pour aller au restaurant. J'ai le droit de les faire garder pour m'occuper de moi. J'ai le droit? Enfin, c'est mes enfants quand même. Je ne les vois pas beaucoup avec le travail. Mon mari rentre tard, il a de dures journées lui aussi. Le laisser seul avec les enfants, c'est pas sympa.
Au boulot, il faudra me remplacer au début, mais pas de soucis. Je vais tout préparer d'ici là. Ce sera comme si je n'étais pas partie. J'ai toujours été efficace et nécessaire. Pour une fois, j'ai le droit de m'absenter plusieurs semaines. Après tout, je ne fais rien de mal. C'est mon droit. Ils ne m'en voudront pas. La boîte ne va pas couler si je m'absente 3 ou 4 mois. La terre ne va pas s'arrêter juste parce que je vais avoir un enfant. Peut-être que c'est ce que je voudrais, avoir ce temps-là, pour voir les choses arriver.
Rattraper des choses que je n'ai pas vécues.
Tout faire comme un homme, même mieux. Homme ci, homme qui dirige, homme toujours plus fort. C'est ce que j'ai toujours fait. Et je continue. La seule chose qu'il ne pourrait pas faire, c'est fabriquer un enfant. Et moi, je le fais.
Et je dois le faire comme si de rien n'était. Comme si je n'avais pas de nausées. Comme si je n'avais pas envie de pleurer sans arrêt. Comme si je ne faisais pas 10, 15, 20 kilos de plus. Comme si je ne faisais pas de rétention d'eau. Comme si mon corps n'était pas en train de changer si vite, trop vite. De changer comme jamais, de changer à jamais. Comme si c'était normal, rien, facile. Évidemment que c'est facile, on est faite pour. Les femmes ont fait tellement bien, semblant si longtemps que tout était facile. Accepter en souriant. Je peux faire tout ce que tu fais en saignant chaque mois.
Alors je peux faire tout ce que tu fais en fabriquant un être humain en même temps. Fastoche.
Doigts dans le nez.
Fingers in the nose.
Et puis j'ai intérêt. C'est pas une maladie, on a dit. L'égalité, on a dit. Tout pareil. Même quand dedans, c'est pas pareil. Mais je vais faire comme si. Comme si je n'avais pas des fois envie de hurler à l'intérieur. Pas de traitement de faveur. Non, non, pas besoin. Je gère.
J'ai mis du temps à affirmer ma place dans ce monde.
Working girl.
Wonder Woman.
Brie van der Kamp.
Les biberons.
Les couches.
Les devoirs.
La danse.
Le basket.
Le foot.
Les cours de judo.
Les réunions de parents d'élèves.
Les kermesses.
Faire des gâteaux.
Les dossiers.
Les factures.
Les relances téléphoniques.
Les mails.
Les rendez-vous.
Tout, je gère. Enfant kangourou, allaitement assumé, malgré parfois les regards, sur le dos, dans le siège auto, dans le parc, à côté du bureau, je gère. Pas de burn-out.
La maison est propre, les courses sont faites, les petits pots faits maison bio-local, circuit court sont prêts. Le chat est nourri, les enfants aussi, propre et nourri, bien coiffé. Les enfants bien rangés dans le coffre, les jouets sont bien rangés. Le salon est nickel, on dirait une photo pour Instagram. D'ailleurs, je devrais prendre une photo pour dire, regardez, je gère.
J'y arrive toute seule. Je suis à mi-temps, mais j'ai ramené du boulot à la maison. Les enfants font leurs devoirs bien sagement dans leur chambre, à 20h au lit. Moi, sur mon ordi, je prends de l'avance, ou plutôt, j'avance sur mon retard. Le dossier du rang doit partir lundi. Je vais l'envoyer aujourd'hui, comme ça, c'est sûr, nickel. Je suis une pro, je gère.
Tout va bien.
Tout va bien. T'es sûre ?
Certaine.
Oui, oui, je gère. Super maman, super collègue, super patronne, super épouse, je gère.
T'as l'air fatiguée quand même.
Non. J'ai trouvé un équilibre. Je m'équilibre.
La maison est presque propre. Bon, il faudra un coup de balai. Le linge traite dans l'escalier. Les courses sont faites, mais j'ai oublié le PQ. J'ai acheté les petits pots, tout fait parce que le mixeur est en panne. Le chat a des croquettes à volonté. Les enfants sont propres. Peut-être qu'ils ont lavé leurs dents, bien sagement. Les jouets, bon. Ceux du salon, ok. Mais ceux de la chambre, on verra plus tard. De toute façon, ils les éparpillent plus vite que je n'arrive à les ramasser. Le salon, bon, ça va, qu'on n'a pas d'invité. Ça fait 30 minutes que je regarde mon tableau Excel sur Netflix avec Netflix en fond. J'ai pas envie de travailler. Le rapport peut attendre lundi, non ? Je gère, quand même. C'est pas parfait, mais je trouve que je gère, non ? C'est pas mal quand même, le principal est là, tout le monde est en bonne santé, c'est le principal.
Vivement que les enfants soient plus grands.
Être enceinte en 2023, c'est encore subir des discriminations. C'est perdre ses boulots peu de temps après l'annonce, en recevant des excuses très pertinentes, qui évidemment n'ont rien à voir avec la grossesse. Et puis entendre courir des bruits, les bruits qui portent la vérité dans leur course, la vraie raison, la seule raison.
C'est devoir d'abord te faire face, homme blanc de plus de 50 ans, toi qui sais, qui seul, qui sais et qui dirige, car tu sais, mieux que quiconque, qui par ton pouvoir arrive à transformer une petite discussion. Je peux te parler juste 5 minutes, en plus de 2 heures d'humiliation sans échappatoire possible, car tu as aussi le pouvoir sur les entrées et sorties de la pièce dans laquelle tu as finalement réussi à me faire entrer. 2 heures à entendre que mon travail est nul, digne d'une kermesse, que je devrais te répondre immédiatement quand tu m'appelles ou m'envoies un vague message, si haute que Sébastien Stoner n'irait même pas s'aventurer à la surfer. Alors je ne suis pas fiable, car pas joignable. En tout cas, pas quand tu le décides. Je n'ai pas non plus le pouvoir de décision quant à choisir qui de mes élèves jouera la pièce ou non de cette fin d'année. Celles qui sont punies parce qu'elles ont été absentes et ne jouent pas. Le brevet des collèges, c'est trop facile comme excuse. Ce diplôme, ça ne sert à rien. On l'a en un claquement de doigts et puis elles font des caprices. Faut pas se laisser marcher dessus comme ça, Laura. Tu vas m'en baver quand ton gosse sera ado. Te tenir tête et les faire jouer quand même n'est pas envisageable. Tu es le président, alors peut-être que tu ne vois pas bien contre quel pied je lutte pour ne pas qu'il m'écrase, homme sachant de plus de 50 ans.
Tes mots sont d'une violence lourde et tranchante. Je lutte pour ne pas qu'il m'atteigne, pour ne pas qu'il touche ma fille en train de grandir dans mon ventre. Mais c'est trop dur. Je m'assieds. Mais rien à faire. Tu m'affliges et me nuis. Je ne me soutiens plus. Mes forces m'abandonnent. Tu sais de quoi je parle ? Je pense bien que ces mots te sont familiers, n'est-ce pas ? Homme sachant de plus de 50 ans. Je suis le souffle coupé. Le dos contre le sol, les jambes surélevées sur le strapantin sur lequel une semaine avant je riais avec mes élèves. Maintenant, il soutient pour m'aider à respirer. Et toi, tu t'assieds à côté de mes pieds, me regardes dans les yeux et continues à m'accabler. Je n'ai pas de répit. Alors je continue ma lutte depuis cette position pour ne pas me laisser marcher dessus.
Tu m'apprends que les larmes qui coulent n'ont rien à voir avec la colère, avec ma volonté de défendre la dignité et les priorités de mes élèves, que tu as bousculé comme tu es en train de le faire. Rien à voir avec le cri que je pousse pour dénoncer l'injustice et défendre leurs valeurs à tes yeux. Non, mais c'est normal, Laura. Tu as les hormones en vrac. Ah, je peux rester allongée au sol alors et continuer de t'écouter, me frapper. Tout va bien.
Être enceinte en 2023, c'est t'entendre, même à terre, épuisée. Jusqu'à ce que toi, homme sachant de plus de 50 ans, aies décidé que tu avais eu ton compte. Ces juste 5 minutes m'ont fait perdre mon identité, littéralement, symboliquement. 5 minutes de discussion dehors à côté de ma voiture ouverte ne m'inspiraient pas de crainte particulière. Alors, le premier venu est passé servir. Et quelle belle prise que celle de ces 5 minutes. Sac à main, ordinateur et téléphone avec mon adresse affichée. Heureusement, tu es désolée. Voilà ce que tu m'as appris, homme blanc de plus de 50 ans.
Être enceinte en 2023, c'est me confronter au passé de femmes qui ne prennent pas en compte mon présent. C'est me mesurer à ton irrespect chaudement couvert d'un manteau de bienveillance, femme blanche de plus de 50 ans, mère de 2 enfants et tutrice de 3. Encore une fois, un désaccord, je t'explique mes raisons. Travailler une pièce à 15 personnes avec 2 élèves, c'est compliqué. L'absentéisme systématique me fait arriver au bout de ma créativité d'improvisation et mes capacités à adapter mes cours et peut-être qu'un électrochoc, aussi fort qu'annuler un cours, permettra d'engager une discussion.
Tu n'es donc pas d'accord. Ton argument quant à toi est de m'expliquer que je ne sais pas ce que c'est que la vie de famille, la vraie, celle contrainte par les horaires, la fatigue, les obligations, les repas. C'est de me dire que je suis trop jeune pour comprendre, que je n'ai pas le droit d'eux, que je ne suis pas autorisée à, mais à quoi finalement ? À me rendre volontairement absente ? Je n'ai pas le droit de dire que mélanger le travail et la famille n'est pas recevable ? Qu'en fait, bien que ce soit improbable, moi aussi je mange, j'ai des horaires à respecter et d'autres obligations que celle de travailler jusqu'à 23 heures le mardi soir pour des élèves qui ne viennent pas ? Ou peut-être n'ai-je pas le droit de te le faire remarquer devant les parents gênés qui viennent déposer leurs enfants au cours du théâtre du mardi soir, qui est déjà retardé de 20 minutes parce que tu ne veux pas que j'aie le dernier mot. Ils sont gênés parce que tu parles fort pour qu'ils entendent, mais j'accepte les règles du jeu. C'est mon métier de m'adapter à mon partenaire, alors je parle aussi fort que toi. Sauf que toi, tu leur tournes le dos. Moi, je suis dos au mur et ils voient mon visage. Ils préfèrent regarder leurs pieds. Je les comprends, je les envie un peu aussi. Dans cette pièce-ci, mieux vaut être spectateur. Au moins, ce dernier a le choix de regarder ou non.
Alors tu sors la menace ultime, celle qui résoudra sans doute le conflit. Je vais appeler mon mari. Il t'expliquera pourquoi tu n'as pas le droit d'annuler ton cours et comment ça l'impacte lui aussi. Ah, le mari, celui qui possède l'autorité, le défenseur de la femme et des enfants, celui qui viendra expliquer à la jeune prof de théâtre ce que c'est que le mystère, que ce mystère qu'elle voit encore percer, la quête initiatique du reste de son existence, la vraie vie de famille. Les comptes seront alors réglés. En me disant cela, j'étais bel et bien coincée entre le mur et toi, mais aussi coincée entre le rire et l'impuissance face à cet argument qui m'a prise totalement au dépourvu. Encore une fois, j'essaie de faire en sorte que tout ceci ne m'atteigne pas et n'atteigne pas mon enfant, celui que je porte dans mon ventre, celui que j'ai protégé en ne te disant pas qu'il ou elle était là parce que je ne voulais pas qu'il ou elle ne soit qu'un simple argument dans une bataille puérile. Mon enfant est déjà tellement plus à mes yeux. Tu ne sauras que cet enfant existe que quand il ou elle aura choisi de se montrer.
Puis tu as fabriqué ces fameux bruits. Tu leur as appris à courir. Courir si vite que la semaine suivante, 14 élèves, je n'ai jamais réussi à réunir les 15 sur toute la saison. 14 personnes en retard de 10 minutes sur le rendez-vous du mardi soir se sont présentées ensemble, en même temps. Elles se sont réunies dehors pour s'attendre et faire leur entrée. Et quelle entrée ! Finalement, mon travail porte ses fruits. Il et elle ont provoqué quelque chose chez moi à cet instant. Et chacun et chacune ont tenu exactement le même discours que celui que j'avais entendu la semaine d'avant. 14 face à 1. 1-3, disons. À ce moment-là, on n'est pas encore tout à fait à 1,5. 14 personnes assourdies par tes bruits, nourries par la colère, la frustration. 14 orgueils bousculés. Et voilà que le plus fatal des conseillers humains leur souffle à l'oreille ce qu'ils doivent me dire. Si bien que je n'ai plus de poids, plus de place, plus de voix.
Je me rappellerai toute ma vie vos visages en voyant mon ventre rond, de vos regards échangés quand vous avez constaté le résultat des calculs de date, que l'impact de vos choix, de vos mots, a peut-être été plus fort que ce que vous imaginiez. Faire du mal ensemble à une jeune adulte qui l'a bien cherché, finalement, on peut s'en accommoder. Mais là, l'orgueil a laissé place à la fierté. Jamais d'excuses. Fini les discussions entre adultes, comme ce fameux jour.
La grossesse n'étant pas une maladie, laissons plutôt Laura apprendre de cet épisode. Elle est grande, elle s'en remettra. Et puis, on doit travailler notre texte. Elle, son job, c'est de mettre en scène, donc laissons-la porter les décors. Mettre en place les gros cubes, faire les allers-retours pour nous ramener nos costumes. Nous allons nous retrouver ensemble, nous échauffer ensemble, nous encourager ensemble. Mais par contre, il faut qu'elle s'occupe de la régie. Donc non, elle ne sera pas avec nous pour la préparation. Bien, petit échec de constater que l'information de base de mes cours n'a pas été reçue. Mais c'est ainsi, je dois encore m'armer contre la fierté et l'orgueil.
Ce n'est pas facile d'avoir des enfants, d'entrer dans la vie de famille, la vraie. Ça lui fera un entraînement. Mais pourtant, je vis avec mon amoureux depuis bientôt 10 ans, avec mon chat. J'ai encore mes deux parents, mes deux frères, mes oncles et tantes, cousins, amis, si proches qu'ils sont tellement plus que ça. Ce n'est pas une famille. Je ne serai pas une femme pleinement accomplie que lorsque mon enfant sera en train de pleurer dans mes bras. Voilà ce que tu m'as appris, femme de plus de 50 ans, mère de 2 enfants et tutrice de 3.
Être enceinte en 2023, c'est aussi toi. Toi là, vieux mec d'une vingtaine d'années avec tes potes sur le parking du supermarché, qui me regarde mettre mes courses déjà trop lourdes pour moi dans le coffre de ma voiture. Tu me dis que tu m'aimes. Tu siffles dans ma direction pour être sûre que j'ai reçu ton message. Tu me dis que tu veux de nous baiser parce que oui, tu t'adresses aussi à ma fille. Tu es bien renseignée visiblement sur le développement embryonnaire pour savoir qu'elle est déjà en mesure d'entendre ce qui se passe autour d'elle. Tes potes t'arrêtent. Toi, tu continues. Auprès d'eux, à réfléchir à ce qui pourrait donner comme plaisir, à te questionner sur les différences de sensations et que serait la meilleure organisation des corps quand on baise une femme enceinte. Deux options s'offraient à moi sur cet instant. Succomber à une pulsion de violence physique accrue ou fuir. J'ai fui. Je ne suis pas seule. Le vice est inarrêtable. Quand il est ancré au fond d'une personne, on ne connaît pas de limite. Je pensais qu'être enceinte m'apporterait un peu de répit quant au harcèlement de rue. Eh ben non. Voici ce que tu m'as appris, vieux mec d'une vingtaine d'années.
Je ne parle pas de cet homme qui s'est frotté dans le métro, de cette vieille femme inconnue qui a posé la main sur mon ventre, de ces regards insistants et pleins de dégoût et de jugement, de ces personnes, hommes et femmes confondus, qui prodiguent trop de conseils. Et c'est finalement pas grand-chose à côté de ces 3 leçons.
Alors non, je n'ai pas vomi. Je n'ai pas de vergeture, pas de syndrome du canal carpien, pas d'envie soudaine et irrationnelle, pas de mal de dos. Mes blessures liées à la grossesse, tu ne les verras pas.
Porter notre fille en 2023, c'est l'entourer d'amour et de la main de son papa. C'est renforcer notre complicité déjà blindée. C'est crier que cet homme est présent à tous les rendez-vous médicaux et préventifs, parce que c'est sa place et que ce n'est pas incroyable. Qu'il ne m'aide pas, ne me soutient pas plus que d'habitude, mais bien qu'il est en train de faire sa part du job comme je fais la mienne. Porter notre fille en 2023, c'est nous questionner sur ce qu'elle devra affronter. Comment lui transmettre les outils pour limiter ses blessures, visibles ou non. C'est se rassurer parce qu'on est fort ensemble, se promettre qu'il lui arrivera 1 million de choses. C'est nous préparer à nous élever ensemble, nous promettre qu'on sera toujours là pour nous-mêmes, l'un pour l'autre et donc pour elle. C'est aussi accepter de pleurer et lui expliquer pourquoi. Lui dire que la vie est pleine d'obstacles, de douleurs, et aussi tellement maladroitement belle, intense et surprenante.
Porter notre fille en 2023 est une expérience très forte et remplie d'amour. Cet amour doux et tendre, cet amour bouclier, cet amour surprise. C'est être curieuse, impatiente, émerveillée par ce qu'a fait mon corps pour lui donner cette première place. À vous, mes chers archétypes, nous étions déjà une famille avant de décider de son arrivée. Je me sentais femme bien avant d'envisager d'enfanter. Mon corps est une machine biologique, si complexe, dont je prends soin avec tant d'amour, de force et d'écoute, que même l'imaginaire fantasmé le plus fourni n'arrive pas à la cheville de ce dont il est réellement capable. J'ai plié sous vos coups. Ma fille en a sûrement ressenti l'écho pervers. Mais je n'ai jamais perdu foi en l'amour. Je ne me laisserai jamais abattre par des femmes et des hommes qui ont oublié de quoi il s'agit.
À toi qui souris en me voyant marcher dans la rue. À toi qui viens me voir dans la file de la caisse du supermarché pour me dire « Vas-y, passe devant, tu en as le droit. Je ne l'ai pas fait quand j'étais enceinte et j'aurais dû. Ceux qui ne comprennent pas, tant pis pour eux. Et toi, petite, qui regarde mon ventre avec les yeux gigantesques parce que tu comprends que c'est un bébé dedans. À toi, monsieur, qui regarde mon ventre et sourit à ton amoureux qui te répond avec le même grand sourire. Toi qui n'oses pas me donner de conseils parce que tu ne veux pas empiéter sur l'expérience que je vis. Toi qui t'inquiètes vraiment de comment va ma grossesse. Et de trucs de bébé parce que tu restes Laura, merde. Toi qui fais attention à ne pas envoyer 1000 sujets en même temps à mon amoureux au travail parce qu'il est pré-congé pat. À toi qui fais attention à alléger son planning sur cette période. Toi qui chauffe tes mains avant de toucher mon ventre parce que tu ne veux pas me donner froid, ni à moi ni à elle. Toi qui me demandes si c'est mieux, gris ou gris clair pour son premier doudou. À toi qui nous souhaite une belle rencontre, une bonne aventure.
Et puis à toi, madame, qui est venue t'asseoir près de moi à cette table pendant que j'attendais mon amoureux qui finissait de payer les courses de notre petite. Toi aussi, tu attendais la personne qui partage votre vie. Tu portais ton nouveau-né dans les bras et tu m'as regardée avec le plus chaleureux des sourires que j'ai jamais reçus. Ton regard était rempli de tendresse, de nostalgie et de douceur. Tu m'as transmis ta force, ton courage. Tes yeux m'ont dit combien c'est difficile et merveilleux, et puis nous avons attendu ensemble. Quelques minutes, toute une vie rêvée. Nous étions inconnus l'une pour l'autre et pourtant nos âmes étaient si proches l'une de l'autre. On ne s'est rien dit du tout pendant ces quelques minutes. Mon amoureux revient, je me lève, enfin j'essaie. Un dernier regard, un sourire taquin. Tu m'as vu et te souviens. Je pars et déjà tu demeures, l'un de mes plus beaux souvenirs. À vous tous et toutes, toutes et tous, merci. Laura.
Moi c'est Karine, je vais vous parler de ma belle époque. Je me souviens, j'avais presque 28 ans quand je suis tombée enceinte de ma fille. D'une nature enthousiaste, curieuse et touche à tout, j'avais un petit caractère bien trempé. Et j'avançais dans la vie avec un petit air effronté, très satisfaite de ne jamais faire comme tout le monde. Du moins, c'est ce que je me disais. À la belle époque, c'est une période intense que nous avons vécue avec mon ex-mari. Lorsque nous avons décidé de monter notre boîte en BTP, nous avions alors 25 et 27 ans. Nous formions une sacrée équipe. Rien ne nous faisait peur. Une fois qu'on avait eu une idée, rien ni personne ne pouvait nous empêcher d'aller au bout. Je n'ai jamais été très ambitieuse, en tout cas pas comme on l'entend aujourd'hui, ni particulièrement carriériste. Je voulais simplement travailler dans le domaine que je maîtrisais et dans lequel j'excellais. Je voulais m'occuper de l'homme que j'aimais et avoir mon petit bébé. Basta. Je n'ai donc été pas surprise d'avoir envie d'engager tout en même temps à cette époque. Un déménagement, une création d'entreprise et l'accueil d'un enfant. À la belle époque, on ne voyait pas bien où était le problème. Tout resterait comme avant. C'est ce qu'il m'avait dit. Lui aux commandes et sa femme à ses côtés pour gérer les papiers, tout en restant opérationnel dans les fonctions de DRH et de DAF. Du moins, c'est ce qu'il se disait. Notre petite PME était composée de 12 salariés. Ils étaient pour la plupart plus âgés que nous. Il y en avait même qui avaient l'âge de mon père. Nous avons ouvert un 1er avril 2005 et ma fille Eva est née le 9. J'aimais l'idée de bousculer les codes, de franchir en tant que femme les barrières d'un monde plutôt macho. Nos collaborateurs m'appelaient gentiment la patronne et m'ont connue avec mon ballon rond, le landau, la poussette, en passant par le parc à jeux dans mon bureau et les séances d'allaitement entre deux réunions quand je nourrissais ma fille. Même s'ils ne le disaient pas ouvertement, je sais aujourd'hui qu'ils n'en pensaient pas moins. La gêne provoquée par certains de mes choix, très personnels et assumés totalement, n'avait pas lieu d'être dans le milieu de l'entreprise, même si c'était la mienne. De deux choses l'une, soit ils pensaient que nous étions trop jeunes pour se coller autant de responsabilités sur le dos, soit nous étions complètement fous. Surtout la patronne. De mon côté, j'avais l'impression de maîtriser ma vie avec une aisance incroyable, d'en détenir les rênes et de décider pour moi. Mais si je suis honnête, et avec le recul, j'ai suivi mon mari dans son désir de toute puissance. Donc, le tout premier choix n'était clairement pas le mien. Quant au deuxième choix, je n'en suis pas plus fière. Car j'ai dit à qui voulait bien entendre que ça m'arrangeait de quitter un CDI dans une grosse boîte où je stagnais. Mais la vérité, j'ai eu peur de vivre un enfer après ma maternité. Perte de responsabilité, changement de bureau, près de la photocopieuse ou de la porte de sortie. Sans parler des petites phrases assassines qu'on se prend dans la figure quand on veut quitter plus tôt pour aller chercher notre enfant dont on saluait la venue à grands coups de félicitations et de champagne avec le DG 6 mois plus tôt. Quand j'ai démissionné, je me suis convaincue que je faisais le bon choix, que j'étais dans mon bon droit. Ça collait avec mon image de working girl et de Wonder Woman que j'avais envie de renvoyer comme un joli pied de nez à tous ces ronds de cuir. Pour autant, une fois derrière mon grand bureau de dirigeante, ça ne m'a pas empêchée d'être en proie au doute et de ressentir une grande solitude face à mes trop nombreuses responsabilités. Je me suis demandé si le fait d'être mère, ça voulait dire imposer son enfant aux autres, tisser du lien dans un endroit improbable où ce n'est clairement pas la place d'un enfant pour s'épanouir, préférer répondre au téléphone plutôt que de répondre à ses demandes d'attention, ne pas être trop mère poule pour ne pas paraître trop faible, ne pas admettre ma fatigue pour qu'on ne vienne pas mettre en doute mes compétences, être une professionnelle et une femme accomplie en faisant tout de même tout pour valider mes capacités. Après 10 ans, on a revendu la boîte. Et au bout de toutes ces années, la vraie question que je me suis posée, c'était « N'avais-je pas manqué d'être une bonne mère ?» Le comble pour moi, qui me croyait tellement libre, je m'étais fait rattraper par les injonctions sociétales et parentales. J'étais très dure. J'ai manqué d'empathie, d'indulgence. J'ai même été, si je suis vraiment honnête, plus dure envers moi-même que n'importe qui sur cette planète. J'ai bien conscience que je suis une personne singulière, que je ne rentre pas dans les cases. Je ne le veux pas. Mais pour autant, je ne pense pas avoir fait du mal en faisant des choix peu conventionnels et qui m'appartiennent, n'en déplaise aux bien-pensants. Aujourd'hui, j'ai 46 ans. Et je peux honnêtement répondre à cette question stupide. Que je ne suis ni une bonne, ni une mauvaise mère. J'aime travailler en collaboration, mener ma vie pro et perso de concert. En faisant du mieux que je peux, en gardant mon esprit critique et une certaine indépendance. C'est clairement ce que j'ai transmis de mieux à mes enfants. Et ce dont je suis le plus fière, c'est d'avoir offert la liberté de choisir et de décider pour eux-mêmes et par eux-mêmes. C'est ma façon à moi de leur avoir donné le meilleur, même si ce meilleur n'est pas celui des autres. Ou du moins, c'est ce que je me suis dit. Merci de m'avoir écoutée. Alors il faut choisir, ton travail ou devenir maman ? Tu n'arriveras jamais à remplir tous les standards, la pression que tu t'imposes, la pression de la belle-mère, la pression des collègues, la pression des inconnus.
Alors, c'est pour quand ?
Oh, mais ce ne serait pas un petit ventre de femme enceinte ?
Félicitations !
Je voudrais devenir grand-mère.
C'est pas une bonne idée, tu sais.
Tu n'as pas envie de devenir mère ?
Plus on attend et plus c'est difficile.
Ah, je vois, tu es carriériste.
Ah, tu vas devenir comme toutes ces mères à partir à 16h30, jamais dispo les week-ends.
Tu vas arrêter de travailler pour t'occuper des enfants ?
C'est dur, tu sais, de concilier les deux.
Le regard qu'on porte sur ma capacité à devenir mère, à être mère, et une bonne mère. Le jugement qu'on porte sur mes compétences professionnelles. Le jugement qu'on porte sur la manière dont je fais mon travail, dont je choisis d'être disponible ou non. On t'a mis ça dans la tête.
C'est ton enfant, ta responsabilité.
C'est ton mari qui reste à la maison avec les enfants.
Tu ne devrais pas le prendre dans les bras quand il pleure.
Ah, tu allaites ?
Ah, tu n'allaites pas ?
Encore enceinte ? Tu veux repeupler la planète ? T'as pensé au réchauffement climatique ?
Tu travailles à la maison ? Pourquoi tu mets pas tes enfants à la crèche ?
Bah, tu travailles. Ton mari gagne pas assez pour que tu restes à la maison.
Tu as arrêté de travailler pour t'occuper des enfants ? Tu n'avais pas d'ambition ?
Comment ça, une garderie dans l'entreprise ? Pourquoi on ne pense pas qu'aux femmes ici ?
Si j'avais su que vous alliez tomber enceinte, je ne vous aurais pas recrutée.
Ta remplaçante sera une ménopausée.
Quand tes enfants seront plus grands et que tu t'investiras à 100% pour nous, tu auras un peu plus de responsabilité au travail.
30 ans et pas d'enfants ? Ah non, désolé, vous ne correspondez pas au profil. Mais c'est mon droit. J'ai le droit. Fondamental. Je suis une femme et je suis une mère. Je peux faire les deux. Je peux tout faire. Comme si ce n'était pas un travail de s'occuper des enfants. Qu'on ne payait pas les nounous, les enseignants et enseignantes, les auxiliaires de puériculture, les éducateurs et éducatrices, les assistants et assistantes maternelles. Ces gens n'ont pas fait d'études, pas assez de diplômes, pas validé de compétences.
Alors oui, ça m'angoisse. Oui, c'est un bouleversement. Mais moi, je n'ai passé aucun diplôme. Rien ne prépare à devenir parent. On essaie de continuer notre vie d'avant. Et en même temps, rien n'est plus comme avant. Ça ne s'apprend pas, ça se vit.
Ne t'oublie pas. Toi, jeune ou moins jeune maman, maman à 20 ans, maman à 40, maman quand tu veux. Maman au travail, enfant sur les genoux ou chez les grands-parents, maman à la maison, au foyer, comme on dit, pilier du foyer. Ton chemin est valide. Sois fière de ce que tu es, de tes choix, sans complexe.
Prends soin de toi.
Tu seras toujours une mère et une femme.
On te le dira suffisamment.
Pourquoi tu as décidé de devenir mère?
Toi seule le sais.
Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu. La rencontre s'est poursuivie par une table ronde que j'ai eu le plaisir d'animer et que vous découvrirez dans l'épisode suivant la semaine prochaine. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous. À bientôt !